Aujourd'hui, nous allons aller lire deux textes dans le Nouveau Testament, un dans la courte épître de Jude au verset 20 et puis un dans l'épître aux Éphésiens. Et le thème que nous avons développé en ce jour, c'est développer une vie de prière par l'Esprit. Les apôtres nous disent de prier par l'Esprit. Croyez-vous que nous avons besoin du Saint-Esprit pour la prière ? Croyez-vous que nous avons besoin du Saint-Esprit pour mener notre vie, c'est certain ? Alors nous allons voir ce que les apôtres nous enseignent concernant cette prière par l'Esprit. Nous sommes dans l'Épître de Jude, donc au verset 20-21, l'avant-dernier livre de la Bible. Et l'apôtre nous dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, priant par le Saint-Esprit. » Et puis donc dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 18, nous allons voir qu'il est question encore de prière et de supplication, comme nous l'avons vu déjà il y a 15 jours. Et l'apôtre Paul écrit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. » Avant même d'être une prière de puissance et d'autorité, la prière par l'Esprit est une prière de qualité, une qualité agréable à Dieu. Mais la prière par l'Esprit ne doit pas être vue comme une prière d'exception, réservée à quelques-uns dans l'Église, pasteurs, anciens ou des personnes vraiment engagées dans la prière, ou alors réservée à quelques moments très intenses spirituellement parlant. Mais la prière par l'Esprit est un standard, une norme, une qualité de prière que nous devons tous rechercher. Vous voyez avec moi ce que Paul écrit, « Faites en tout temps toutes sortes de prières par l'Esprit. » Il insiste, « En tout temps, en toute occasion, non pas dans des moments exceptionnels, mais lorsque nous nous retrouvons dans l'assemblée, lorsque nous nous retrouvons en groupe de maison, lorsque nous nous retrouvons dans notre maison seule, dans notre chambre, prions par l'Esprit. Prions par l'Esprit aussi toutes sortes de prières. Non pas simplement des prières de guérison, de délivrance ou des prophéties, mais l'apôtre Paul nous invite à porter à Dieu toutes sortes de prières, requêtes, prières, intercessions, actions de grâce par l'Esprit. Mais nous reconnaissons que trop souvent, nos prières manquent de cette saveur, de cette puissance, voire même de cette présence de l'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas nos prières. Ça ne veut pas dire que lorsqu'il manque cette dimension charismatique à nos prières, Dieu rejette nos prières. Mais le Seigneur désire nous amener plus loin. Il désire nous encourager. Et par sa parole, il nous montre un chemin. Non pas un idéal lointain, mais une réalité à vivre. Non pas par nos seules forces, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Avant de parler donc de puissance, d'autorité associée à la prière par l'Esprit, il nous faut tout d'abord parler de relation avec l'Esprit. Car n'oublions jamais que le Saint-Esprit n'est pas une force matérielle, n'est pas simplement un principe spirituel pour mieux prier, pour avoir des résultats spectaculaires, mais le Saint-Esprit est une personne divine. En utilisant un langage théologique, nous disons qu'il est consubstantiel au Père et au Fils, c'est-à-dire qu'il est de la même nature, de la même substance que le Père, que le Fils. Il est Dieu comme le Père est Dieu, comme le Fils est Dieu. Et je dirais aussi qu'il est Emmanuel. Car Dieu avec nous aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est l'Emmanuel de notre génération. Alors, l'apôtre Paul nous invite donc, comme Jude, à prier par le Saint-Esprit. Et maintenant, si nous nous rendons attentifs au texte et surtout à l'original, d'une manière très simple, nous allons voir que cette expression en dit beaucoup plus que cette simple traduction « prions par l'Esprit ». Car derrière ce petit mot « par », il y a beaucoup plus que « par ». « Par » nous parle d'un moyen. Mais dans la langue grecque, « par » est traduit, ou plutôt vient de « n », « en », qui peut être traduit non seulement par « par », mais aussi par « dans », mais aussi par « avec ». Et suivant les traductions que nous avons, les versions que nous avons, même en français, nous pouvons avoir « prié par l'Esprit », mais nous pouvons aussi avoir « prié avec l'Esprit » ou encore « prié dans l'Esprit ». Et chacune de ces expressions s'avère nécessaire, s'avère même complémentaire l'une par rapport à l'autre, et nous allons le voir progressive. Car si le but est d'atteindre une prière par l'Esprit, nous allons voir que pour prier par l'Esprit, il faut tout d'abord prier avec l'Esprit, c'est-à-dire être en accord avec lui. Et pour être en accord avec lui, pour prier avec l'Esprit, il faut d'abord prier dans l'Esprit. Voyez-vous comme elles sont complémentaires, ces trois façons de traduire. Voyez-vous aussi comme elles sont progressives. Et c'est la richesse de cette langue grecque que le Seigneur a choisi donc pour nous communiquer les Écritures du Nouveau Testament. Tout d'abord, il est donc dit « prier dans l'Esprit ». Prier dans l'Esprit nous parle d'une communion avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est prêt à nous impulser, à nous pousser dans la prière, à nous rendre capables de prier. L'apôtre Paul utilise un mot que je francise, qui n'est pas très joli en français, mais nous le comprenons. Il dit, il veut nous énergiser. Oui, le Saint-Esprit est capable de nous donner cette énergie divine pour prier. Avez-vous déjà été poussé par le Saint-Esprit dans la prière? C'est merveilleux. Lorsqu'on sent la présence de l'Esprit, il nous pousse, prie pour cela. Et il nous donne la force, il nous donne la persévérance, il nous donne la foi, il nous donne l'amour. Alléluia! C'est la foi qui déplace les montagnes. L'autorité qui est là dans le nom de Jésus, que c'est bon. Mais pour prier ainsi, il nous faut d'abord considérer un texte de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Nous allons lu tout à l'heure, nous avons lu Éphésiens 6, 18. Regardons un chapitre plus haut exactement, Éphésiens 5, 18. Et dans ce verset, Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Et il continue « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous. » Voilà les conditions et la qualité de vie à développer avec le Saint-Esprit pour développer une vie de prière puissante. Je note deux verbes, donc « remplir » et « entretenir ». Et les deux encore sont nécessaires. Parce que s'il n'y avait que l'idée d'être rempli, alors nous pourrions nous contenter de remplissage occasionnel. Quand il y a un gros problème, un accident de la vie, une difficulté, alors nous allons vraiment chercher le Saint-Esprit. « Oh, Saint-Esprit, remplis-moi » Mais ce n'est pas ce que Paul nous dit. Il ne nous enseigne pas un remplissage occasionnel, mais il nous pousse à signer avec le Saint-Esprit un contrat d'entretien. Un suivi, une régularité. S'entretenir dans la vie de l'Esprit. Et ce n'est pas simplement quelque chose que nous développons lorsque nous sommes dans notre chambre de prière, mais c'est quelque chose que nous faisons en permanence, en chantant le Seigneur, en louant Dieu, avec ses cantiques, ses psaumes, ses hymnes qui peuvent monter dans notre cœur. Peut-être ces chants de louanges que vous écoutez lorsque vous prenez le métro, le train. Peut-être aussi cette lecture que vous pouvez suivre là dans votre trajet professionnel, au lieu de regarder ce qui se passe autour de vous, peut-être vous concentrer sur une lecture. Les anciens dans la foi avaient cette habitude de développer des exercices de piété. Et beaucoup d'anglo-saxons ont gardé cela. Ils appellent ça les devotional, les dévotions. Par exemple, aujourd'hui on trouve les livres de Spurgeon, qui nous parle des dévotions du matin, du soir, des lectures pour nous encourager dans la foi. Autrefois, nous savons qu'il y avait des hommes de l'Église, comme notamment Saint François, qui avaient développé aussi toutes sortes de littérature pour nous encourager dans la vie, dans la piété. Et s'entretenir dans l'Esprit, c'est cela. Non pas quelque chose qui vient quand on en a besoin, mais une espèce de travail permanent, un entretien permanent, pour dire que lorsque nous devons rentrer dans la prière, nous soyons prêts. Ce n'est pas que nous allons en permanence, je vais le dire comme ça, parler en langue dans les rues, non, mais en permanence, l'Esprit de Dieu est là, même lorsque nous travaillons, même lorsque nous sommes à telle ou telle activité dans la maison, on veut garder malgré tout un contact avec le Seigneur. Cet entretien est nécessaire, ce suivi, cette régularité. Pas de vie de prière par l'Esprit sans une communion régulière avec l'Esprit. Et ça passe donc par deux choses. Paul le dit dans les Éphésiens par la louange, les chants, l'adoration, l'action de grâce. Et puis dans d'autres endroits, il nous dit que ça passe aussi par le parler en langue. Il nous dit que dans son culte personnel, il parlait abondamment en langue. La puissance du parler en langue est une puissance d'édification. Notre intelligence est stérile, mais nous prions par l'Esprit. Et notre âme est édifiée, fortifiée, renouvelée. Et nous avons besoin de cela. Avant de passer au point suivant, je voudrais malgré tout insister sur deux points très importants. Le premier est lié au contexte même d'Éphésiens chapitre 5, où Paul dit au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » Toutes les louanges, tous les parler en langue n'auront aucun effet si dans nos vies nous conservons des choses impures, des choses indignes de Jésus-Christ, des situations de compromis. Peut-être que les hommes ne peuvent pas le voir, mais le Saint-Esprit le voit. Il sonde nos cœurs. Et lui ne peut agir que dans des vases d'honneur, sanctifiés, utiles à leur maître, propres à toute bonne œuvre, de Timothée 2:21. On peut dire, par exemple, qu'avant la puissance vient la sainteté. La puissance par l'Esprit ne se développera que dans la sainteté. Avant l'huile vient le sang. Avant la Pentecôte vient la Pâque. Avant la chambre haute vient la croix. Si nous voulons grandir dans la puissance de l'Esprit, nous devons grandir dans l'amour de Christ, dans la sainteté de Jésus-Christ. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, ce sont les motivations de nos cœurs. Et il n'y a qu'une seule motivation que le Saint-Esprit agrée, c'est l'amour. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, « Quand bien même j'aurai la prophétie, la connaissance, toute la connaissance et la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Il dit encore que les langues ne sont qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, si nous n'avons pas l'amour. L'amour est la seule valeur que le Saint-Esprit agrée, même avant la foi, parce que la foi est rendue agissante par l'amour. Et le Seigneur va regarder si dans nos cœurs, notre motivation première dans la prière est l'amour ou non. Alors cherchons avant toute autre chose à développer une communion, une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Et alors notre lieu secret, notre chambre deviendra une chambre haute. Et alors notre vie, notre corps deviendra véritablement un temple de l'Esprit, une habitation de Dieu en Esprit. Et en entretenant cette dimension, lorsque nous rentrerons dans la prière, nous toucherons plus rapidement le cœur de Dieu, nous approcherons plus rapidement du trône de notre Seigneur. Prier dans l'Esprit nous permet ensuite de prier avec l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire prier avec l'Esprit ? Bien, ça veut dire prier selon l'Esprit, autrement dit être en accord avec lui. Ça veut dire que nos prières sont inspirées par lui, qu'elles seront même conduites par le Saint-Esprit, en accord, inspiration, conduite de l'Esprit. Et lorsque nous sommes donc avec l'Esprit, l'action qu'il produit dans nos cœurs, c'est une assurance. Si je prie en accord avec le Saint-Esprit, quelle foi ! Quelle conviction ! Et quel repos ! Quel repos aussi ! Parce que je sais que l'Esprit s'occupe des prières qui monte au Père. Prier avec l'Esprit, c'est aussi démontrer d'abord une disponibilité à l'égard de l'Esprit. Avant même de parler, on prend le temps d'écouter le Saint-Esprit. Samuel ne connaissait pas la voix du Seigneur. Il dut apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Connaissez-vous la voix de l'Esprit ? Il faut souvent, au milieu de bien des bruits de cette ville et de notre vie, entendre ce doux murmure. Mais si vous faites attention à ce murmure, vous découvrirez qu'il est la parole puissante de Dieu. Avant de vous lancer dans toutes sortes de prières, rendez-vous sensible à la voix de l'Esprit. Le livre des Actes des Apôtres est le livre qui nous raconte comment des hommes travaillant avec le Saint-Esprit ont bouleversé le monde. Et ce que nous voyons avec eux, c'est qu'avant de se précipiter sur les routes de ce monde, ils sont d'abord retournés à Jérusalem pour chercher la promesse, le don de l'Esprit. Et lorsque la promesse fut réalisée, alors ils s'en allèrent. Et cette image est valable pour nous aussi. Nous devons prendre le temps de chercher à être en accord avec le Saint-Esprit. Et être en accord avec le Saint-Esprit, c'est démontrer une obéissance, un désir de le suivre. Les hommes de la Bible nous montrent comment ils ont appris à travailler avec le Saint-Esprit. Paul parlait de l'assistance du Saint-Esprit. Mais il y a des expressions dans les Actes des Apôtres qui sont très fortes. Par exemple, dans Actes 13, le Saint-Esprit a appelé deux hommes, Saul et Barnabas. Alors que l'équipe pastorale de l'Assemblée d'Antioche était en train de prier, de jeûner, Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part ces deux-là pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et les frères d'Antioche n'ont pas dit, oh non, nous voulons les garder parce que ce sont de bons ministères. Mais écoutant la direction du Saint-Esprit, reconnaissant l'appel de Dieu, ils les ont laissés partir en les bénissant. Seigneur, comment m'appelles-tu ? Vers quoi veux-tu me diriger ? Ils ont aussi appris à être interpellés. Le Saint-Esprit est capable de nous interpeller par des circonstances, par des paroles. Je pense à Pierre dans Actes 10 et dans Actes 12. Pierre qui avait faim, qui se tenait sur la terrasse et qui a été interpellé par le Saint-Esprit en vue de se rendre ensuite chez Corneille le Romain. Pierre qui plus tard, après avoir été emprisonné et magistralement délivré par l'ange, il nous est dit qu'il va réfléchir et il va s'en aller dans un autre lieu. Il se sentait interpellé par le Seigneur à poursuivre sa mission plus loin. Nous verrons aussi que le Saint-Esprit est capable de nous pousser, de nous porter dans une œuvre. Si vous, vraiment vous cherchez la direction de l'Esprit pour la prière, vous verrez qu'il vous montrera des choses. Dans Actes 8, il est parlé de Philippe, l'évangéliste, qui a commencé par être un évangéliste de foule. Il a apporté le réveil en Samarie. Pensez donc, des milliers étaient là. Des guérisons, des délivrances extraordinaires. Et puis voilà que le Saint-Esprit lui dit ensuite, « Eh bien, tu vas aller sur la route de Gaza. Ne te trompe pas, tu prends la route déserte. » Alors là, c'est sûr, il y aurait des foules. Il s'est retrouvé là sur son chemin se demandant « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Jusqu'à ce qu'un homme passe sur son char et que le Saint-Esprit lui dise d'approcher de lui. C'était le ministre éthiopien à qui il a rendu témoignage et qu'il a ensuite baptisé. Poussé, porté, le Saint-Esprit nous conduira dans la prière. Et il y a deux expressions qui sont très fortes. Elles viennent de cet homme qui connaissait l'Esprit, l'apôtre Paul. Dans Actes 16, alors qu'il cherche une direction de Dieu, il écrit ceci, « Empêchez de pénétrer en Asie par l'Esprit. » Le Saint-Esprit peut nous empêcher. Et ce qui me fait sourire dans ce texte, vous savez, c'est que si ce texte avait dû être écrit par des gens de notre génération ou par beaucoup de chrétiens, ils n'auraient pas écrit ça. Ils auraient écrit « Empêchez par Satan ». Vous voyez toute la finesse de cet homme dans sa connaissance de Dieu et de l'Esprit qui a su reconnaître que celui qui l'empêchait d'aller dans cette région, ce n'était pas le diable, mais c'était le Saint-Esprit lui-même. Ce n'était pas le temps de Dieu. Plus tard, le Seigneur lui ouvrirait les portes d'Éphèse, mais ce jour-là, le Saint-Esprit avait dit non. Non pas Satan, mais le Saint-Esprit. Et quelque temps plus tard, dans Actes 20, Paul dira encore cette phrase qui nous surprend. Il dira « lié par l'Esprit ». Mais nous disons « mais lié par le diable, lié par les passions ». Et lui, il dit « lié par l'Esprit ». Il ne s'est pas trompé. Ce n'est pas le diable qu'il avait lié ce jour-là, c'était l'Esprit. Quelle sensibilité cet homme avait développé au Saint-Esprit. Puissions-nous, nous aussi, apprendre à avoir cette sensibilité, cette disposition à l'égard du Saint-Esprit pour prier avec le Saint-Esprit. Seigneur, inspire et conduis mes prières. Renouvelle-moi, afin que je puisse prier avec foi. Parce que si je suis en accord avec toi, après tout, n'est-il pas écrit, Seigneur, que quand deux s'accordent sur la terre, ce qu'ils demandent aurait été accordé dans les cieux. Toi, Saint-Esprit, tu es sur terre. Si je m'accorde avec toi, si nous sommes tous les deux d'accord, Saint-Esprit, est-ce que nos prières ne seront pas entendues du Père ? Et quand nous prions avec cette assurance que c'est le Saint-Esprit qui nous pousse, quelle foi ! Parce que nous sommes convaincus que ce que nous demandons, le Père l'exaucera. Prier dans l'Esprit nous amène à prier avec l'Esprit. Et nous pourrons ainsi prier par l'Esprit. Car comment imaginer prier par l'Esprit sans l'Esprit ? Comment imaginer prier par l'Esprit sans l'inspiration et la direction et la conduite du Saint-Esprit ? Mais ça se construit, ça se bâtit. Parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, ce ne sont pas quelques principes spirituels, quelques mécaniques spirituelles à appliquer, quelques théorèmes mystiques. Le Saint-Esprit est une personne. Et on apprend à vivre avec lui. Il est une personne qui a des sentiments, des pensées, des émotions, une volonté. Et nous devons apprendre à le connaître et à l'aimer. Et enfin, je peux parler de prier par l'Esprit. Oui, maintenant, nous pouvons parler de prière par l'Esprit. Une fois que nous avons parlé de prière dans l'Esprit, de prière avec l'Esprit, nous pouvons parler de prière par l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous dit de faire des prières par l'Esprit en tout temps et toutes sortes de prières. Voilà notre but, ce que nous voulons atteindre. Et je voudrais simplement avec vous voir quatre formes de prières par l'Esprit. La première est la prière intelligible, la prière faite avec nos mots. Le Saint-Esprit nous pousse à prier. Il met dans nos cœurs des pensées, des directions, et nous parlons et nous prions dans notre langue. Eh bien, je veux vous dire que c'est aussi déjà une prière de l'Esprit, parce que c'est une prière qui est agréable à Dieu. C'est une prière où nous sentons en accord avec lui. Et même si ce ne sont que nos paroles, que nos mots, elles ont une saveur particulière, une puissance particulière auprès de Dieu. Et puis vient la prière en langue. Elle devient nécessaire, cette prière dans des langues nouvelles, lorsqu'il s'agit d'exprimer l'inexprimable. Quelques mots sur le parler en langue. Nous savons que l'apôtre Paul nous dit de ne pas empêcher de parler en langue dans l'Église, mais ce qu'il souhaite, c'est que, tout d'abord, si un don en langue doit être interprété pour l'édification de l'Église, mais il nous dit, si je dois prier en langue, c'est bien, mais si dans l'Église je prie en langue compréhensible, intelligible, alors c'est mieux parce que mon frère, ma sœur peut répondre amen. Mais dans mon culte privé, nous dit-il, moi je parle plus que vous tous. Et il nous encourage à parler en langue dans le culte privé. Il nous encourage à prier abondamment, à développer un véritable parler en langue. Mais mes frères et sœurs, je crois dans la puissance, dans la valeur du parler en langue, mais non pas comme des espèces de ritournelles, de mécanismes que nous mettons en marche. Mais pour moi, le parler en langue, c'est l'aboutissement de quelque chose. C'est un débordement. Dans notre doctrine pentecôtiste, nous croyons que le parler en langue manifeste un débordement du Saint-Esprit. Eh bien, chaque fois que nous sommes amenés à l'exercer, ce ne doit pas être une mécanique, mais comme un débordement, parce que l'amour de l'Esprit nous presse, parce que l'amour et la puissance du Saint-Esprit est en nous. Et il arrive un moment où nous n'arrivons plus à prier avec nos mots, nous n'en trouvons plus des pensées. Alors vient le secours du parler en langue, qui nous amène dans une autre dimension que le Seigneur agrée. Je le crois, en tout cas c'est personnel, mais un temps de prière dans l'Esprit, avec l'Esprit, par l'Esprit, ne peut que nous amener un moment à parler en langue, à cause de ce débordement et de ce besoin d'aller encore plus loin. Je voudrais aussi parler rapidement des soupirs. Rappelez-vous, Romains 8, 26, 27, Paul écrit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Laissez-moi vous dire que tous les soupirs, tous nos soupirs, ne sont pas des soupirs inexprimables. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, hélas, hélas, quel malheur, quel désastre, de faire pour que ce soit un soupir de l'Esprit. Je vous rappelle notre ami Lot, qui tous les jours se tenait à la porte de Sodome en disant « Mais c'est terrible, c'est abominable, tout ce que j'entends, tout ce que je vois », mais qui le soir venu s'en retournait dans sa maison, qui était au beau milieu de Sodome. Et quand Dieu a choisi quelqu'un pour intercéder en faveur de Sodome, ce n'est pas Lot le juste qui tourmentait son âme avec des soupirs, mais c'était Abraham qui était sur la montagne. Qu'est-ce que donc un soupir inexprimable ? Il me semble que c'est lorsque le Saint-Esprit, qui sonde le cœur de Dieu, prend des sentiments qui sont dans le cœur de Dieu pour nous les communiquer. Il prend de cet amour de Dieu, de cet amour de Jésus-Christ, peut-être de la tristesse de Jésus-Christ, des larmes de Jésus-Christ pour nous les communiquer. Ce ne sont pas des sentiments qui sont venus du cœur de l'homme. Ce ne sont pas des sentiments qui sont venus à cause de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Ce sont des choses que Dieu nous a données par son esprit. Avez-vous déjà connu ces sentiments qui sont là sur nos cœurs? Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il peut nous amener à pleurer sur telle ou telle situation. Il dit que dans le jardin, il a présenté de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications. Sa prière était une prière d'agonie. « Seigneur, donne-moi des sentiments puissants qui ne pourront que s'exprimer par des soupirs de l'esprit à travers ma vie. » Quel moment merveilleux où le Saint-Esprit prend de ce qui est à Dieu des sentiments du cœur de Dieu pour nous les communiquer. Le dernier point, la dernière prière par l'Esprit que je vais évoquer, je ne vais pas m'y arrêter très longtemps, c'est un grand sujet, nous y reviendrons très bientôt, c'est la prière prophétique, les dons spirituels. Les dons spirituels font partie des prières par l'Esprit. Voyez, d'un côté, vous avez les prières qui montent, l'intercession, la prière par l'Esprit. Mais de l'autre côté, vous avez d'autres prières par l'Esprit qui sont les prières qui descendent du cœur de Dieu. Les premières, c'est les adorateurs, les intercesseurs, les sacrificateurs qui intercèdent par l'Esprit. Et de l'autre côté, ce sont les prophètes qui prophétisent et qui prient par l'Esprit. Mais vous savez, dans la Nouvelle Alliance, ce sont les mêmes. Les sacrificateurs sont aussi les prophètes. Et ces sacrificateurs, ces prophètes, ce sont nous. Nous qui avons reçu la vie de Christ et l'Esprit du Seigneur pour prophétiser en son nom. Nous y reviendrons plus longuement parce que c'est un sujet important que nous devons connaître ensemble. Alors en conclusion, je voudrais encore vous dire que la prière véritable ne peut se dispenser du ministère du Saint-Esprit. Il est l'auteur et le consommateur de la prière. Paul le dit, c'est l'Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Alors, mes frères et sœurs, développons une vie de prière par l'Esprit, en tout temps et en toutes sortes de prières. Mais d'abord, cherchons cette communion et cet accord. Une prière dans l'Esprit, une prière avec l'Esprit et une prière par le Saint-Esprit. Alléluia.